problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs en direct, bien sûr, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News à la télé, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense, tout bas. Avec 3 heures de programme ce soir que je vais vous détailler dans quelques instants et bien sûr une équipe de rêve, comme tous les soirs, emmenée par Daniel Riolo, qui est là, en forme, même si les vacances sont proches.
Ah ouais, c'est
salut en Daniel.
Dernier, c'est le dernier soir. Enfin, salut les amis.
Ah, ça sent la qui là hein.
Ouais. Non, encore dimanche quand même.
Ah oui, dimanche. Ouais. Willy Sagnol, comme tous les jeudis, est avec nous. Salut Willy.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ce soir, messieurs, nous accueillons un homme qui a été formé dans le plus grand club du monde. Et ça, ça compte quand même dans un CV.
C'est pour ça qu'il est là.
Bah non, quand même.
Tout de suite. Tu commences, Daniel. Tu commences. Il y a quoi?
Non, c'est Habib Belaïd est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Non, il a joué en Bundesliga, par exemple.
Je voulais te savoir, est-ce que ça t'a marqué?
Bien sûr.
D'avoir été formé dans ce club-là.
Mais bien sûr. Les supporters ont marqué. Tiens.
Ah. Voilà. Allez. Strasbourg, Francfort. Avoir joué à Strasbourg, à Francfort cette saison-là, c'est bof parce que Francfort, ils nous ont maltraités. Mais Sedan, enfin plein d'autres.
Habib, point commun avec toi et avec Willy.
Exactement.
L'Allemagne et enfin, c'est un truc de. C'est en l'Est, là.
Bah, tu es d'origine de la région parisienne?
Oui, bien sûr. Ouais, exactement.
Bah, comme 70% des joueurs de Ligue 1, enfin, ou des joueurs de foot.
Bah, sauf Willy. Willy, c'était un vrai Stéphanois.
Ah, mais ça arrive de temps en temps.
Arrive de temps en temps. 70%, ça, il en reste beaucoup par ailleurs. 70,
c'est,
voilà.
C'est énorme.
Je précise que Julien Cazard sera avec nous tout à l'heure à 23h, bien sûr. Et l'événement ce soir dans l'After, ce sont donc les Ultras, qui pour certains sont plus rebelles que jamais. Comme promis, spécial Ultra ce soir dans l'After avec plusieurs invités. Tout à l'heure, Pierre Barthélémy sera avec nous, qu'on a déjà reçu dans l'After. Nicolas Hourcade, bien sûr, nous rejoindra. Le 32-16 est ouvert, on va se poser différentes questions. Les Ultras sont-ils vraiment en train de se radicaliser, comme le dit le patron de la Ligue, qui était dans l'émission de Mohamed il y a 2 jours, Didier Quillot. Le dialogue est-il devenu vraiment impossible ou bien est-il plus possible que jamais? Il y a pas mal de situations différentes, vous le verrez, à décrypter. Et puis des parallèles à faire entre ce qui se passe aujourd'hui dans nos rues et dans les stades, bien sûr. Tout cela sera sur la table de l'after. Et puis, quelles propositions pour apaiser les tensions? On essaiera d'en faire modestement dans l'after ensemble tout à l'heure. Et puis à 23h, on changera radicalement de sujet. Parce que figurez-vous, messieurs, qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont détectés, non pas sur les terrains à 11, mais sur les terrains à 5. Eh oui, Ben Yedder est un peu l'emblème de tout cela. Il y a pas mal d'événements qui s'organisent avec des systèmes de détection qui marchent bien. Donc on en parlera tout à l'heure à 23h, avant le quiz qui suivra la chronique du jeudi de Max du Standard, qui nous donnera, comme tous les jeudis, les tendances de l'after. Quiz qui vous offre la possibilité ce soir de rencontrer les joueurs du PSG. C'est pas rien. Tout ça grâce à Deliveroo, partenaire premium du PSG, vous le savez. Donc pour participer au quiz, il faut vous inscrire, vous envoyer after par SMS au 732-16. Dès maintenant, pour pouvoir gagner la possibilité de rencontrer les joueurs du PSG. Le 32-16 est ouvert, le hashtag RMC Live, bien sûr, Direct Studio. On vous attend jusqu'à minuit. C'est parti et on va, parce qu'il faut qu'on contextualise, Daniel, comme il faut, cette thématique, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, ces derniers jours, dans nos clubs, dans les tribunes de nos clubs. Sarah Griffon est là. Sarah, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Tu vas nous rappeler un peu tous les éléments divers et variés là qu'on a vécu entre Saint-Etienne, Lyon, entre autres, Bordeaux. Enfin voilà, c'est tous ces éléments-là qui nous ont, avec Daniel, provoqué l'envie de faire cette émission ce soir.
On va parler que de la dernière semaine parce que c'est déjà beaucoup. Ça a commencé mardi, match de Ligue des Champions Lyon-Leipzig. Le match se termine, Lyon est qualifié pour les 8e de finale. Mais au lieu que les supporters se réjouissent de cette qualification, eh bien, on a droit à une scène un peu cocasse, mouvementée, on va dire. Depay qui se dirige vers un supporter qui lui arrache une banderole à l'effigie, on peut dire, de Marcelo, et s'ensuit des insultes, des gestes d'humeur. On est passé pas très très loin de la bagarre. Finalement, les esprits se sont calmés. Tout le monde est rentré au vestiaire. Voilà le premier incident de la semaine. Le deuxième incident, c'est vendredi soir, le Red Star au stade Boer. Le Red Star reçoit Quevilly-Rouen. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a fait le déplacement pour cette rencontre, pour suivre ce match. Et la ministre a dû être exfiltrée parce qu'elle a été prise à partie par une dizaine de supporters qui l'ont prise à partie. C'était pas forcément par rapport au résultat du club, plus par rapport à ce qui se passe en ce moment en France. Mais voilà, l'exfiltration de la ministre vendredi soir. Le lendemain a lieu l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football. Son président, Noël Le Graët, demande aux institutions, demande aux présidents de club de calmer leurs supporters. Il tape du poing sur la table, il ne veut plus de fumigène, de chants racistes, de chants homophobes. Eh bien, il faut croire que les supporters ne l'ont pas vraiment entendu, parce que le soir même, Toulouse-Reims, les ultras, qui après le match, après une huitième défaite consécutive de leur club, les ultras de Toulouse tentent de rentrer dans la tribune présidentielle. Ils ont été stoppés par le personnel de sécurité, heureusement. Et puis, on se souviendra tous forcément de ce dimanche dernier, dimanche soir, Saint-Étienne-Paris, avec un spectacle pyrotechnique dans les dernières minutes de la rencontre, des fumigènes, un feu d'artifice. C'en était un petit peu trop tout de même pour des matchs de Ligue 1.
Merci Sarah. Alors, afin d'être complet, on va écouter Didier Quillot. Donc, je le disais tout à l'heure, il était tout à l'heure chez moi. Tout à l'heure, non, c'était avant-hier, chez Mohamed Bouafsi. Et lui, il considère qu'aujourd'hui, il y a une radicalisation d'une partie des supporters. On écoute.
Le nombre de fumigènes a été multiplié par 3 par rapport à la saison précédente. Et ceci, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable pourquoi ? Parce que les fumigènes dans les stades, c'est interdit, et parce que c'est surtout dangereux. Et donc, il y a une espèce de radicalisation chez les supporters là, qui est absolument incompréhensible compte tenu de toutes les mains tendues que nous avons faites, nous, aux supporters, depuis plusieurs mois. J'y reviendrai. Radicalisation qui est incompréhensible, qui est irresponsable et qui est inacceptable. Parce qu'une fois de plus, c'est interdit et c'est dangereux. C'est l'affaire de d'un pourcentage infime de supporters dans quelques clubs. Et comme l'a dit le président Le Graët donc la semaine dernière, il faut que les clubs concernés, ils sont peu nombreux, reprennent le contrôle donc du comportement de leurs supporters.
Voilà pour Didier Quillot. On accueille Pierre Barthélémy. Bonsoir Pierre.
Bonsoir à tous.
Ah, Pierre est avocat. Il bosse beaucoup avec les groupes de supporters, notamment concernant tout ce qui est interdiction de déplacement, huis clos. Donc tu étais déjà venu dans l'after il y a quelques semaines de cela pour parler de tous ces sujets. Donc c'est intéressant de t'avoir parce que tu es au contact quotidien de tous les groupes d'ultra quasiment. Bon, peut-être pas tous, mais beaucoup en tout cas.
Oui, effectivement, avec l'actualité qui est très très chargée, il y a beaucoup de dialogues à la fois en interne entre supporters et puis au niveau national, puisque on voit bien que c'est un peu l'ébullition dans les réactions. Donc c'est important aujourd'hui de beaucoup discuter, de prendre les informations et de relativiser et de surtout ne pas faire de faux diagnostics au risque de mettre en péril le travail de fond qui est mené.
Et puis si vous êtes devant RMC Sport News, vous avez vu qu'il est venu avec son plus beau pull de Noël. Voilà. Je pense que Daniel, t'aurais pas osé toi.
Non, le pull de Noël, ça me fait rire quand je vois sur les autres, mais de là ce que moi je mets, de là ce que moi je mets un truc comme ça, ça va être compliqué quand même.
Nicolas Bourcade est également avec nous, sociologue spécialiste du mouvement ultra et du monde des supporters en général. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. Voilà, le plateau est complet. J'aimerais qu'on démarre par cette première question. Est-ce que, selon vous, messieurs, tous qui êtes autour de la table, est-ce que Quillot a raison ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une radicalisation qu'on voit des supporters ? Certains parlent même de gilet jaunisation des tribunes. Est-ce que vous le constatez ? Willy et Habib, peut-être d'abord vous, vu du terrain, quoi, parce que vous avez vécu sur les terrains à d'autres époques. Un peu plus éloigné pour Willy que pour Habib, mais comment est-ce que tu vois ça ? Tu vois une radicalisation, toi ?
Moi, je ne sais pas si le terme radicalisation, parce que radicalisation, c'est-à-dire c'est aller sur un chemin qui s'éloigne de la normalité, mais de la normalité fixée par certains individus. On va dire que la façon dont les gens aujourd'hui montrent un mécontentement ou un ras-le-bol ou une envie à évoluer avec le temps, mais ça c'est la société qui a évolué, c'est pas que les ultras dans le football, c'est la société qui a évolué. Après, moi je suis toujours parti du principe, parce que si j'ai fait quasiment ma vie d'adulte en Allemagne, pourquoi ça fonctionnait en Allemagne alors qu'il y a des mouvements ultra aussi, c'est parce qu'il y a le lien entre les clubs et les supporters, le lien entre la fédération et les supporters, le lien entre les pouvoirs publics et les supporters, ce sont des liens qui n'ont jamais été rompus. Il y a toujours eu des discussions, mais ça fait partie des traditionnels syndicats allemands, même dans la vie civile. On sait que les syndicats allemands, pourquoi il y a un peu moins de grève, c'est parce que les discussions sont toujours en amont, parce que des deux côtés on est ouvert et à un moment donné on choisit un intérêt général. Et je crois que en France, ce qui se passe dans le foot, c'est comme dans la société, c'est il y a plus de discours. Aujourd'hui, tu as des supporters, pour beaucoup, on peut dire, tu parlais de gilet jaunisme, ouais. On peut parler de France d'en bas, on peut parler de France des campagnes, on peut parler, parce que c'est pas que Paris, c'est la France, et moi je suis originaire de la campagne, donc je connais un petit peu ces gens-là. On a, à un moment donné, quand on regarde aujourd'hui dans les clubs de foot, quand on regarde aux instances, on a l'impression de voir, entre guillemets, que des énarques. Je dis bien entre guillemets.
Je veux dire, c'est deux mondes qui se comprennent pas.
C'est deux mondes qui se comprennent pas.
On va en reparler tout à l'heure des nouveaux systèmes de gouvernance qui heurtent certains supporters.
Aujourd'hui, même si j'ai rien contre ces personnes-là, mais aujourd'hui, pour un supporter lambda, par exemple, de voir, je me rappelle plus son nom, un président de la Ligue de football.
Nathalie Bois de la Tour.
Nathalie Bois de la Tour, pour eux, c'est. Ils se disent, qu'est-ce que c'est?
C'est pas leur monde, quoi.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas une dame qui vient du foot, par exemple. Et pour beaucoup aujourd'hui de dirigeants de club, parce qu'il y a eu des clubs qui ont été rachetés par des actionnaires, donc on va mettre un président issu peut-être du monde civil, qui était patron d'entreprise, mais qui n'a pas forcément ce lien avec le football. Et par exemple, à Bordeaux, c'est ça, c'est le lien qui à un moment donné est cassé, c'est que le président ne comprend pas les supporters, et les supporters ne comprennent pas le président.
Habib, t'es d'accord?
Moi, je vais rejoindre Willy sur le terme radicalisation. Je pense que c'est un terme qui est beaucoup trop fort. Voilà. Après, de là à dire que aujourd'hui c'est plus qu'avant, non, je suis pas sûr. Je pense que depuis la nuit des temps, les supporters, quand ils sont pas contents, ils viennent au stade, ils viennent t'insulter, ils viennent au centre d'entraînement, ils viennent te dire ce qu'ils ont envie de te dire. Donc, certes, aujourd'hui, il y a peut-être plus de télé. Donc, les images, elles sont peut-être plus fortes et tout ça, mais j'ai vécu à Strasbourg des choses similaires. J'ai vécu dans des derbies des choses similaires entre Strasbourg et Metz aussi, notamment. Voilà, à partir du moment où tu n'as pas les résultats escomptés, il ne faut pas non plus se demander pourquoi les supporters ne sont pas contents. Après, pour revenir à ce que disait Willy, c'est vrai que je vais reprendre encore le cas de Strasbourg où c'est Marc Keller qui a été ancien joueur, qui a été... directeur sportif et tout ça au club, donc c'est quelqu'un qui connaît le contexte local, voilà. À Lyon, c'est pareil, ça reste Jean-Michel Aulas qui est là depuis 30 ans. Après, là où je suis pas d'accord avec les supporters, c'est de s'en prendre individuellement à quelqu'un en dehors du stade ou en dehors des structures du football. Voilà, parce que le mec, ça reste un homme, et ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre à un moment donné. Il pète les plombs, voilà. Maintenant, voilà, que le supporter marque son mécontentement ou sa joie, comme à Saint-Etienne la semaine dernière. On est footballeur, on a besoin d'émotions, on a besoin de ça. Quand les joueurs viennent à Marseille ou à Lyon, c'est pour l'ambiance. Bah, à un moment donné, faut pas aussi se dire que quand ça va pas, l'ambiance elle tourne aussi, quoi. Ça reste mon opinion et voilà, mon point de vue.
Alors Pierre et Nicolas, avant que Daniel prenne ensuite la parole, radicalisation ou pas pour vous, Pierre d'abord?
Non, déjà pour moi, le mot aujourd'hui, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, il a quand même une connotation assez forte. Ah oui, donc c'est quand même un mot qui est peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il est venu un peu dans l'inconscient de Didier Quillot, mais en tout cas, c'est un mot qui est connoté et qui correspond pas du tout à la réalité.
Tu peux être radical en politique. C'est un mot qui s'emploie. C'est pas parce que ça te fait penser à que c'est un mot qui sort du dictionnaire.
Non, tout à fait. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a une connotation qui fait que
ça fait peur aux gens aujourd'hui.
Ce mot fait peur aux gens. Oui, mais c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. On peut quand même l'employer pour dire que tu as une idée qui est plus tranchée qu'avant.
Tout à fait.
Mais en revanche, si tu me dis ils se comportent comme des terroristes, Là, absolument pas. Là, le mot ne doit pas être employé, évidemment. Parce que souvent, il y a ce genre de phrase qui peut, ah, eux, il l'a terrorisé. Non, voilà, tu vois. Mais là, radicalisé, je veux dire, c'est un mot qui existe. Non,
tout à fait. Je disais juste que dans le contexte, ça a une connotation actuelle. Ça a une connotation qui fait qu'il faut, il faut pas le comprendre comme ça.
Non.
Et il faut pas l'analyser comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas un mouvement général. C'est ça aussi. On parle de radicalisation des supporters, mais en fait, il y a une succession d'incidents locaux avec des considérations purement locales et factuelles. Et on essaie d'en tirer un raisonnement général, structuré, et même une dynamique générale nationale. Et c'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas généraliser quelques cas et ne pas justement. Alors
oui, parce qu'il y a plus de clubs où ça se passe bien que de clubs où ça se passe mal. Oui, quand on regarde
la,
dans
la
les détails,
le fond est plutôt bonne. On a vraiment un vrai progrès. Le dialogue avance. On est en train de construire des bases solides. Et il faut pas donner le sentiment que parce qu'il y a quelques incidents au même moment à plusieurs endroits, il y aurait une tendance générale à la radicalisation ou à l'éloignement des supporters des structures de dialogue, puisque c'est pas du tout le cas. Et quand on voit les pays à l'étranger, honnêtement, en France, on est là aujourd'hui dans une situation plutôt idéale.
Nicolas Ourcade, d'accord avec Pierre ou pas?
Déjà, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Willy Fagnol. Moi, je partirais d'un premier point, c'est qu'il y a déjà des problèmes à distinguer. Dans tous les problèmes qu'on a eu ces dernières semaines, il y a trois grands problèmes, il me semble. D'abord, il y a les fumigènes, qui est un problème qui dure depuis des années, qui est certes particulièrement fort en ce moment, mais qui n'est pas nouveau. Il y a un deuxième problème, qui est celui du conflit entre un club et ses supporters. Là non plus, c'est pas nouveau, mais actuellement, comme il y a conjoncturellement plusieurs situations locales que Willy Fagnol a rappelé, ça se transparaît plus. Et le troisième problème, c'est des incidents et des violences physiques, qui est le problème le plus grave. On l'a vu au Red Star, on l'a vu sur PSG Galatasaray. Mais il faut pas tout amalgamer, parce que les problèmes sont pas les mêmes et appellent des réponses différentes. Sur la radicalisation, moi je trouve que le terme est pas forcément pertinent. Il y a juste un point sur lequel je pense qu'il y a une surenchère quand même, c'est au niveau fumigène. On est dans un conflit entre la Ligue, notamment sa commission de discipline et les ultras, et on est un peu dans une surenchère des deux côtés. D'un côté, la commission de discipline de la Ligue prononce de plus en plus des fermetures de tribunes, parfois très radicales. Là, il y a trois matchs pour une tribune de Montpellier prochainement. Et en réponse, les ultras craquent de plus en plus parce qu'ils savent de toute façon leur tribune va être fermée. On a une sorte de surenchère là, oui. Mais par contre, comme l'a bien dit Pierre, il faut bien voir que le monde ultra, il n'est pas homogène. Et au sein des ultras, il y a aussi bien des gens qui sont très radicaux dans une logique gilet jaune, si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez. Et aussi bien que des gens qui sont dans le syndicalisme à l'allemande qu'évoquait Willy Fagnol. Et entre ces deux extrêmes, vous avez toute une palette de comportements. Et finalement, moi, je dirais que les gilets jaunes parmi les ultras sont très peu nombreux. C'est plus du syndicalisme, parfois du syndicalisme de dialogue social, comme quand tout se passe bien, quand on arrive à s'entendre, et parfois du syndicalisme un peu de combat, qui est plus dans la tradition française finalement. Mais ça reste du syndicalisme parce qu'il y a quand même des représentants dans les groupes ultras, il y a quand même une hiérarchie, on a quand même des porte-parole et on sait à qui s'adresser. Le problème des gilets jaunes, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de représentants, de porte-parole clairement.
Aujourd'hui, les groupes ultras, c'est les syndicats des clubs de foot.
Oui, pour moi, oui, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, parce que du coup, si c'est des syndicats, ça veut dire que si on construit les conditions d'un bon dialogue social avec eux, on peut trouver des solutions qui profitent à la fois aux supporters et aux clubs, et c'est ça l'enjeu qui a été posé par les...
Sauf qu'on a un problème aujourd'hui, messieurs, et d'ailleurs, il y a pas mal de papiers qui ont été écrits là-dessus ces derniers jours, on en a vu sur plein de blogs et tout, mais qui est le Martinez des ultras? Il n'y a pas de porte-parole.
Moi, j'ai toujours défendu, Nicolas a raison, j'ai toujours défendu l'idée que les supporters pouvaient être assimilés à un syndicat dans un club à partir du moment où tu vends l'idée qu'un club est géré comme une entreprise. Donc pourquoi pas effectivement un contrepoids ou en tout cas un contre-pouvoir. Maintenant, il faut voir si la volonté de dialogue existe. Aujourd'hui, quand on lit à quel point les banderoles sont de plus en plus toujours violentes à l'égard de la Ligue, alors que la Ligue n'a jamais été autant dans le dialogue que ces derniers temps, quand on lit ce matin dans SoFoot, Nicolas Xismartov qui écrit un article où en gros il dit que la Ligue veut un football imaginaire, parce que en aucun cas la Ligue ne veut du football qui est décrit dans l'article, en gros un monde où on virerait tous les supporters pour changer la sociologie dans les tribunes, ce qui est une aberration. Jamais la Ligue, il suffit de parler deux minutes avec Didier Quillot, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit, et lui, comme il l'a dit quand on l'a entendu tout à l'heure, est réellement dans le dialogue. Mais Nicolas, syndicat, ouais, on est d'accord sur cette question. Minorité agissante qui fout le bordel, on est également d'accord. Mais il suffit de regarder ce qui se passe dehors aujourd'hui. C'est également une minorité qui est dans les rues et qui manifeste. Mais cette minorité, elle suffit à mettre la France dans un bordel pas possible et à bloquer les rues depuis plus de 15 jours. Donc minorité peut-être, mais elle agit tellement fort, elle exprime une telle violence en ce moment... mine de rien, elle est en train de paralyser le football, de faire peur à d'éventuelles personnes qui voudraient reprendre les clubs. Mais en même temps, ces gens qui reprennent les clubs, bah, les supporters ne les aiment pas, et très souvent à juste titre. Donc où est le problème? C'est ça qu'il faut qu'on cherche à comprendre ce soir. Et tout à l'heure, on faisait l'inventaire des Sarah quand elle est venue des événements. Lyon, Red Star, Toulouse, Saint-Etienne. Si on essaye de définir juste ce qui s'est passé, Lyon, c'est quoi? C'est une volonté de pouvoir des supporters. En gros, président, virer ce joueur qu'on n'aime pas.
Oui, pas une volonté de pouvoir.
Et il y a aussi, prenez pas cet entraîneur qu'on n'aime pas non plus.
Il y a pas l'ambition des supporters de prendre le pouvoir. Il y a l'ambition de peser dans le processus décisionnel du club.
L'acte en lui-même, c'est président, virer ce joueur. C'est une volonté de décision. On ne veut plus de ce joueur. Red Star, c'est hors foot. Là, c'est purement contestation du pouvoir. Elle représente le pouvoir. Tous les gens qui sont au stade, dégage, on veut pas te voir. Toulouse, c'est autre chose, c'est une frustration vis-à-vis du pouvoir. C'est essaye de mieux bosser, ça fait des années que tu fous rien. Et l'étape d'après, ce serait casse-toi. Mais qui vient derrière, ouais, on ne sait pas.
Il y a aussi un manque de dialogue structurel qui fait qu'ils n'ont pas d'autres moyens de communiquer.
Et bien sûr, on va en parler du dialogue, effectivement. Oui, mais c'est pour ça que quand on parle de syndicat, Gilbert a raison. Encore faut-il qu'il puisse y avoir. Et Saint-Etienne, là, on n'est ni dans une volonté de dialogue. Là, c'est une rébellion claire, nette. C'est une rupture avec le pouvoir et les dirigeants. Là, il n'y a plus. Et ça fait des années qu'à chaque fois que les mecs leur disent arrêtez parce que vous nous mettez dans la merde avec fumigène, eux, ils en refont toujours plus. Là, il y a réellement une cassure qui est assez profonde. Il y avait, on l'a pas évoqué, mais au PSG récemment, il y a eu un problème avec un mec de la sécurité. Les supporters ont demandé au club de le virer. De virer la société ou un mec, en l'occurrence, ils ont obtenu gain de cause.
Pour le coup, c'était très sain. C'était la bonne solution.
Moi, je suis pas contre. C'est juste qu'on mette les mots pour bien comprendre où est la situation aujourd'hui. Et également, souligner que certaines accusations des supporters par rapport au pouvoir sont très souvent, moi je pense, justifiées par rapport à certains dirigeants et ce qu'ils sont en train de faire de leur club. Par rapport à la Ligue, certainement un petit peu moins, surtout en ce moment. Ça a pu être.
Bah attendez, regarde, moi j'ai la liste. La Ligue, mine de rien.
Il n'y a pas trop de discernement dans la contestation.
Mais en revanche, ils en sont convaincus. C'est un discours sincère quand ils le disent parce qu'aujourd'hui, on a du mal et on a tous notre responsabilité à faire redescendre par la communication et dans les faits, la qualité du dialogue au niveau national avec la Ligue, au niveau local. Mais il faut faire attention, et tu l'as très bien dit, il y a une multiplicité de cas, et les cas qui sont des confrontations par rapport à la Ligue, c'est pas forcément les plus importants ou les plus virulents.
Non, c'est souvent des banderoles, on assimile. En fait, le problème, moi ce que j'ai dit, c'est un peu le manque de discernement. On mélange tout quand on dit sur la banderole, la Ligue, machin, truc, t'as déplacé les matchs,
C'est vraiment un manque de communication parce que
ils font tout pour dialoguer avec vous, ils font tout pour avancer dans le sens d'un rétablissement éventuel des déplacements. Honnêtement, il y a que sur les fumis aujourd'hui qu'il y a achoppement. Pour le reste, le dialogue est quasiment ouvert à tout.
Mais comme surtout, il y a différentes tendances aussi au sein de la Ligue. Donc, selon la personne qui prend la parole à la Ligue, c'est pas forcément que c'est la même approche. C'est pas forcément la même. Enfin, les discours de la Ligue sur le supporterisme, c'est pas forcément les supporters qui sont les destinataires de la communication. Quand, par exemple, c'est la Fédé, Noël Le Graët prend la parole, il parle à l'UEFA. Parce que l'UEFA lui dit, t'auras plus de finale de Coupe d'Europe ou t'auras plus de compétition européenne en France si jamais il y a trop de fumis. Donc, quand il dit qu'il faut réprimer les fumis, il parle à l'UEFA, il parle pas aux Français.
Ça, c'est très important. C'est important que tu expliques cette. Parce que la Ligue n'organise que la Ligue 1. Ce qu'il y a au-dessus, quand le Graët intervient, c'est des craintes que, en gros, du business ne puisse pas se faire à cause de ça.
Tout à fait.
Mais c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on aborde ce soir. C'est cette volonté un petit peu, comment dire, anti-business. Quelles conséquences ça a, finalement? Si on écoutait ce que disent beaucoup de supporters à ce sujet, sur les dirigeants, l'argent, le fait, les mecs pourraient te dire, on n'en a rien à foutre d'organiser des compétitions. Mais oui, mais quelle place on veut pour notre football? Quelle évolution on veut pour nos clubs?
Alors,
c'est bien beau, le
maintenant qu'on a posé tout le débat, on va pouvoir y aller tranquille. Moi, on vous attend au 32-16.
Le cœur du problème, il est dans l'économie.
Là où Daniel a vraiment raison, c'est que ce qui manque en France, c'est une vision générale, globale, à long terme. Et en fait, on est toujours dans la réaction, la construction de tout petits éléments.
Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur aujourd'hui qui sont à la tête des clubs, qui sont à la tête des institutions. Pour la plupart, ce ne sont pas des gens issus du football. Comment vous voulez avoir une vision footballistique à long terme si vous ne connaissez pas le milieu
Pour le coup, Madame Bois de la Tour, elle est venue avec son regard neuf extérieur et ça a été une des personnes les plus ouvertes et constructives. Hein. C'est elle qui a fait énormément.
Stop à ce stade. Willy, je pense qu'il parle de l'exemple de Longue Épée. Qui cristallise le problème aujourd'hui.
Longue Épée, on peut parler celui de Marseille.
Héros.
À chaque fois, on a l'impression avec que ce sont des gens de parachutés.
Ouais, non, mais d'accord, Willy, mais à côté de ça, t'as l'OL.
Top, Daniel, il faut qu'on fasse une pause.
Depuis 30 ans. Au PSG, Leonardo est revenu, c'est un homme du foot qui s'occupe du sportif. Si tu prends tous les clubs, c'est partagé un peu.
On continue dans quelques instants tous ensemble. On a également un match de hand ce soir, Julien Landry, Montpellier-Nantes. Match de D1, on en est où?
C'est la mi-temps, messieurs. 15 partout entre Montpellier et Nantes. Savoir qui va finir deuxième de la phase aller derrière l'intouchable PSG au hand comme au foot. Les deux clubs d'ailleurs détenus par QSI. Montpellier 15, Nantes 15 à la mi-temps.
À tout de suite dans l'After pour continuer le débat avec les supporters. Nassim au 32-16 est déjà là, il veut réagir. À tout de suite.
RMC,
l'After Foot,
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'After est là, un spécial supporter ce soir avec donc Willy Sagnol, Habib Belaïd, Daniel Riolo bien sûr, Pierre Barthélémy qui est avec nous, avocat, Nicolas Ourcade qui est sociologue. Avant que je me suis amusé à lister quand même tout ce qu'a déjà fait la Ligue pour les Ultras ces derniers mois, et vous allez voir que la liste est quand même assez longue. Mais juste avant, Nicolas, tu voulais répondre à ce que Daniel disait juste avant la pub.
Oui, mais j'étais assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'avancées de discussion avec la Ligue de football professionnel, mais il y a un point sur lequel il n'y a pas eu encore de vrai dialogue, c'est sur les sanctions de la commission de discipline, avec notamment les fermetures de tribunes en cas de pyrotechnie. On a un sujet central que Daniel Riolo a évoqué, c'est celui des fumigènes, et si on règle ce problème, on en règle plein. Et en fait, actuellement, on a commencé à ouvrir ce débat au sein de l'Instance nationale du supporterisme. C'est un organisme rattaché au ministère des Sports qui permet à tous les acteurs de discuter de ces sujets. Ça a eu des premières conséquences, puisqu'à ce week-end, ça a été assez passé sous silence, mais il y a eu un allumage contrôlé par les ultras, autorisé par la Ligue, autorisé par les pouvoirs publics. On pourrait réfléchir à des zones pyrotechniques, comme il y a aux États-Unis, où dans certaines zones, on sait qu'on peut allumer des fumigènes. Les spectateurs savent qu'ils risquent d'y en avoir dans cette zone-là. On peut travailler sur des produits alternatifs, comme au Danemark, il y a eu une animation il y a 10 jours. On peut travailler sur les transferts de responsabilité. Il y a une vraie réflexion à avoir. Et la ministre des Sports l'a dit clairement. Effectivement, la pyrotechnie, on a compris que ça fait partie de la culture des supporters. Il faut trouver les conditions pour que ça puisse se faire en toute sécurité.
Alors là-dessus, il y a quand même un discours qui évolue. Parce qu'il y a encore quelques mois, c'était Noé, le sujet non négociable, pas possible, hein, c'est les fumigènes. Là, les choses évoluent quand même positivement.
Nicolas, je veux bien qu'on continue à parler des fumigènes. Ça fait 1000 ans qu'on en parle et tout.
Oui, mais le fumier, c'est le symbole ultime de la contestation.
Est-ce que, imaginons demain, à la Ligue, on se réveille, on dit OK, c'est bon, c'est utilisé. Donc dans les stades, tu vas avoir les fumigènes, bon, aucun problème et tout. On parlera après des conséquences au niveau européen, de comment tu gères par rapport à l'Europe, qu'est-ce que tu as le droit de faire et tout. Est-ce que tu crois que une fois que tu vois, parce que le fumigène est un objet festif, ouais, d'accord, hein, une fois que tu as donné l'autorisation de le refaire, est-ce que tu vas gommer par ailleurs tout ce qui sera à un moment donné les frustrations vis-à-vis des dirigeants, de ce qui se passe sur le terrain? Pour moi, alors que ce soit symbolique, certes, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, finalement, de tout ce qui peut être une contestation de supporters. Pour moi, le problème sur là, c'est beaucoup plus vaste. Moi, si j'étais encore en tribune aujourd'hui, je dirais, bon, OK, le fumier, très bien, bon, oui, mais est-ce qu'on peut avancer sur quel rôle je peux avoir? Comment on analyse ce qui s'est passé à Lyon? Comment on analyse ce qui se passe à Toulouse? Comment on analyse ce qui se passe à Bordeaux? C'est pas une affaire de fumier, ça.
C'est
le fumier, en l'occurrence, à Saint-Étienne, il a servi à travers cet objet de contestation très violente vis-à-vis de dirigeants avec qui le dialogue est rompu. En l'occurrence, tu vas me dire c'était pour fêter les 20 ans et deux. Non, ça, je le sais. Mais néanmoins, dans la volonté de fêter, il y avait aussi, tiens, et on vous emmerde.
Il y avait deux sujets, mais là en fait il y a une diversité à la fois de cas selon les clubs et puis surtout de supporters au sein des tribunes. Et les fumis, c'est vraiment quelque chose qui concerne les groupes ultras et pas tous les groupes ultras.
Ouais.
Donc, mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours des tensions au niveau local sur différents sujets qu'il faudra résoudre. En revanche, aujourd'hui, au niveau national, ce qui est le vrai blocage et le vrai sous tension, c'est la question d'une part de la pyrotechnie et d'autre part de la réponse qui est la disciplinaire de la commission de discipline de la Ligue, qui est la sanction collective. Parce que les groupes ultra ont toujours été, on craque, pas vu, pas pris, on assume. En revanche, le fait de sanctionner des milliers pour le fait de quelques-uns, ça heurte la logique.
Cet argument-là, si on parle de Saint-Etienne, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu con de machin, mais de sanctionner et tout. Mais là, en l'occurrence, ils vont fermer les virages.
Donc en fait,
tout le stade. Voilà, pour l'instant, c'est tout le stade. Jusqu'à nouvel ordre.
Ceux qui sont injustement sanctionnés, on est d'accord, c'est ceux des tribunes latérales.
Bah, et 90% des virages.
Voilà. Bon, et, mais tu crois vraiment que les mecs qui ont allumé à Saint-Étienne et tout, ils s'en carrent quelque chose des tribunes latérales?
Bah pour le coup,
moi j'ai pas l'impression justement.
Pour le coup, les sanctions collectives, c'est vraiment ce qui les heurte, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans nous on
moi,
assume.
Je pense que ça c'est une fausse excuse.
Non non, parce que aujourd'hui, on a vraiment un large panel de sanctions individuelles ou de mesures administratives individuelles pour écarter les personnes et les supporters, ils les contestent pas tant que ça hein, ces possibilités de les sanctionner
donc,
individuellement.
Donc combien tu vas en sanctionner à Saint-Étienne là? Si tu retrouves les images de tous les mecs qui avaient des fumées dans les mains.
Voilà, il y a bien 200-300 là.
Que ouais. Ceux qui ont la capacité de sanctionner individuellement prennent leurs responsabilités.
On sait bien, Pierre, on sait bien que c'est du mytho. À partir du moment où les mecs sont rentrés dans le stade avec autant de matériel, ça veut dire que la sécu n'existe pas.
Bah d'ailleurs, la sécu a été forcée. Hein. Voilà. Il y a des mecs qui ont forcé. Il y a une centaine de supporters qui sont rentrés légalement.
Le service
légalement.
De sécurité est défaillant.
Le club a saisi la justice.
Que la direction est totalement défaillante et incapable d'assurer la sécurité dans son stade. Au final, ça peut avoir des conséquences parce que tu as plein de gens qui viennent dans les tribunes latérales qui peuvent, en gros, être un petit peu réticents à l'idée de revenir au stade après.
La pyro, c'est unanimement salué. Les gens en latéral aiment
beaucoup.
Et je
te dis pas qu'on aime pas. Moi aussi, j'aime bien.
Les joueurs adorent.
Moi, je cherche à comprendre comment ça résout le problème.
Mais en fait,
le problème n'est pas de savoir si on aime ou pas. Tu comprends? Il faudrait qu'on aille plus loin que ça.
Mais il faut partir d'un postulat clair, c'est que aujourd'hui, aucun club au monde ne peut empêcher la pyro de rentrer dans son stade. Aucun. Il peut en intercepter plus ou moins, mais aucun ne peut laisser rentrer. Deuxième chose, les ultras. Deuxième postulat.
Si tu veux un service de sécurité,
Non,
parce que tu peux mettre tout le monde à poil.
Juridiquement, les stadiers ont le droit de faire que des palpations. Enfin, voilà. Il y a un paquet de raisons qui fait que de toute façon, de la pyro, si on la fait rentrer, on la fait rentrer. Et le deuxième postulat, c'est que les groupes ultra, de toute façon, pour ceux qui considèrent que la pyrotechnie est au cœur de leur identité ne vont pas lâcher. Donc, à partir de ces deux postulats, soyons pragmatiques. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va mener à l'instance nationale du sportérisme avec l'appui de la Ligue. Qui est de réfléchir à des utilisations soit dans un cadre particulier qui serait plus protecteur, soit avec du matériel qui serait moins dangereux. Mais donc il y a des pistes aujourd'hui.
Et donc et la réponse à ma question, si tu penses que tu règles tous les problèmes, donc
non,
tout, la contestation qu'il peut y avoir à Bordeaux, la contestation à Marseille.
Non, mais attends, on va en parler après Daniel de ça.
Ça, pour si je suis supporter, pour moi ça c'est plus important.
On va en parler après.
Mon problème, c'est plus important. Mais le jouet que j'ai dans la main.
Mais tu règles la tension nationale qui aujourd'hui. Ouais. Donne une image négative alors que le dialogue n'a jamais été aussi loin, qu'on n'a jamais autant avancé.
D'accord, ok.
Et là j'en viens.
C'est une source de tension.
Nicolas, on a dit un mot. Ça, c'est quand même la Ligue a grandement évolué là-dessus. Donc à Angers, qu'est-ce qui s'est passé? Utilisation de fumigène encadrée. Alors ça se passait en fait devant la tribune, à quelques mètres devant. Voilà, mais avec accord du club, de la préfecture. Enfin, je veux dire, voilà.
Ils ont tiré des feux d'artifice, quoi.
Non, c'était juste.
En tant qu'ultra, les mecs, ils viennent, ils veulent craquer là où ils ont envie de craquer. Enfin, faut se le dire. Mais quand ils sont dans le stade,
tu crois que l'encadrement ça marchera pas?
Non. Moi, j'ai du mal aussi.
Bah oui,
je suis un peu comme ça. Je me dis,
ils ont envie de craquer. Tout est problème de culture.
Non, mais
aussi.
Le problème, c'est que regarde, à Angers, c'était la première fois. Quand ça se fera 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois,
ça s'est fait au Havre l'an dernier.
Ça s'est fait au Havre.
Ça devait se faire à Lille cette année, mais il y a eu un blocage.
Ils vont tous suivre.
Moi je pense pas.
Tu peux pas être absolutiste. Si jamais ça marche que sur 30% des groupes et qu'on réduit du coup de 30% la pyrotechnie illégale, c'est déjà un progrès. De toute façon, on n'est pas là pour prendre une mesure qui plaît à tous ou qui plaît à personne. Si ça plaît à certains et que ça permet à certains de vivre dans la légalité leur amour pour la pyrotechnie, autant le permettre.
Tu vois une
c'est pas parce qu'il y a certains qui vont refuser qu'il faut pas l'offrir aux autres.
T'as une problématique de culture aussi. On sait en France quand on nous donne, comme on dit, donne un bout et tu m'arraches le bras. Et c'est aussi une des problématiques des clubs aujourd'hui, c'est de se dire, je sais qu'ils se le disent, c'est si je leur accorde ça, qu'est-ce qu'ils vont me demander demain?
Moi, je pense encore différemment.
Visiblement, si tu leur donnes ça, ils veulent plus rien, d'après ce que j'entends.
Moi, je crois pas.
Dans notre culture, on veut toujours plus. Je pense que
le supporter va se dire, pourquoi vous voulez me mettre en cage? Tu me donnes 10 mètres carrés pour allumer mes...
Non, mais c'est un cadre à négocier et puis ils sont pas obligés de l'accepter. Mais s'il y en a à qui ça convient, pourquoi ne pas l'utiliser? Enfin, à part
les gens vont
pas se focaliser sur 3-4 clubs où on sait que les ultras le voudront pas parce que c'est pas dans leur
mœurs. C'est 3-4 clubs aussi qui, enfin, Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne, tu vois, Marseille, c'est les stades, c'est les
clubs. Donc
les
clubs. Si t'arrives à négocier avec les gens Angers, voilà, Le Havre et tout, à eux tu leur donnes, mais après les autres, de toute façon, ils accepteront pas.
Non, et puis tu peux pas être dans une posture, parce que pour moi, de faire, par exemple, dans un petit carré de 10 mètres carrés, balancer 2-3, enfin, allumer 2-3 fumigènes, alors comme tu dis, dans quelques clubs, ça va accepter, puis dans d'autres, ça va pas accepter.
pour moi, ça serait pour moi une réformette. Si ça serait une réformette pour dire ça on peut le faire, c'est un peu notre pays, on fait des
ouais,
on accumule les réformettes. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas là pour trouver des réformettes, on est là pour trouver des solutions, une solution pour tout le monde.
Ah ben si, alors la pyrotechnie, il y en a en Autriche dans des zones autorisées, au Danemark selon le matériel autorisé.
Mais la pression
en Suède,
l'UEFA met la pression pour
en match UEFA, mais après sur les matchs sur les matchs de
championnat, c'est beaucoup plus. Alors les gars, arrêtons 2 secondes. La pyrotechnie, parce que moi j'aimerais quand même qu'on mette fin à une idée reçue qui court partout, c'est en gros la Ligue est anti-ultra. On peut pas le dire ça.
Non, c'est faux.
Moi j'ai juste ça. Listé pour être concret.
Mais c'est le ressenti quand même de la plupart des gens dans les tribunes.
Ben voilà, mais c'est pour ça que, écoutez bien.
C'est pour ça que je parlais de discernement tout à l'heure.
Je vous donne une liste de choses que la Ligue a fait concrètement pour les ultras. Les tribunes debout. C'est la Ligue, ça s'est fait dans quelques stades.
La Ligue a participé à chaque fois, mais c'est pas la Ligue seule.
Mais sans la Ligue,
sans la Ligue, il n'y a pas.
Sans la Ligue, c'est plus compliqué.
Le prix des billets en déplacement, 10 euros en Ligue 1, 5 euros en Ligue 2.
Ça, c'est la Ligue toute seule.
Ça, voilà, ça, c'est la Ligue. Ça, c'est un signe quand même important. Je veux dire, 10 euros à l'extérieur, 5 euros en Ligue 2. Bon.
Quand tu peux te déplacer. Et c'est la Ligue qui empêche le déplacement. Voilà, c'est les encore une fois.
Autre mesure, l'entrée en vigueur des référents supporters. Très important. Il y a des clubs où ça marche très bien. Bon, il y en a d'autres où ça marche un peu moins bien. Mais enfin bon, il y a un lien entre les groupes ultras et les clubs.
Et la Ligue a fait partie, avec l'Association nationale des supporters et la Fédé, d'un programme européen sur 2 ans qui prend fin aujourd'hui. Et donc, il y a eu un travail de fond gigantesque pendant 2 ans sur le référent supporter. Et la Ligue s'est impliquée de A à Z de manière franchement remarquable.
J'ajoute, en plus de l'évolution sur les fumigènes, la pression mise aux politiques sur la stratégie préfectorale d'interdiction de déplacement de supporters. C'est-à-dire que la Ligue a poussé pour que, ce soit moins rigide et que les préfets soient pas là systématiquement, à foutre des interdictions de déplacement pour en gros se couvrir en cas d'éventuel problème.
Ça n'a pas marché, ça.
Si, il y a la
circulaire. Pierre est spécialiste de la question.
La circulaire qui vient d'être publiée par le ministère de l'Intérieur, elle est quand même assez exceptionnelle dans l'univers administratif. Le ministère de l'Intérieur reconnaît les erreurs qu'a eu l'administration dans l'abus de ces mesures-là. Il y a des recommandations pour ne pas en abuser. Il y a des règles avec des garde-fous pour ne pas en abuser. Et on voit déjà des premières évolutions parce que, par exemple, les 1000 supporters parisiens à Saint-Etienne, c'est la conséquence directe de ça. Sinon, ça restait avec une jauge à 200 qui est une fausse jauge parce qu'à 200, les supporters refusent d'y aller. Le déplacement des Bordelais à Marseille, pareil. Donc,
passé d'ailleurs, au demeurant.
Tout à l'heure, on a recensé les faits qui entre supporters et direction, club, le pouvoir, comme on disait, mais des caillassages de bus, il y en a eu à Paris, à Marseille, incidents autour des stades et tout. Mais il faut dire aussi une petite recrudescence de ça.
Faut pas généraliser. À Marseille, il y a aussi un problème structurel d'urbanisme qui fait que on sait pas sécuriser un bus intégralement
à Lyon
jusqu'à l'arrivée au stade. À Lyon, c'est le faire. Le problème à Lyon, c'est quand on met les matchs le vendredi soir, que la rocade est saturée, les bus sont coincés au milieu des
ombres. Nicolas Bourcade, les efforts de la Ligue.
C'est pas 10% de supporters de foot en France qui doivent tout gérer. Tu vois, au bout d'un moment, il y a des limites. Les concessions doivent être faites.
C'est juste qu'il ne faut pas généraliser des incidents isolés.
Mais on ne généralise pas. Mais à chaque fois, la phrase "il ne faut pas généraliser", c'est comme si on efface tout le reste.
Nicolas Orcal est au téléphone. Il n'est pas là pour se mettre en face de toi pour que tu t'arrêtes de parler. Donc, laisse un peu la parole.
On ne peut pas les passer sous silence.
On ne les passe pas sous silence.
Nicolas, sur les efforts de la Ligue, là, on est tous d'accord. Il faut que ça passe auprès des ultras aussi, ce message. La Ligue est leur allié.
Moi, je verrais encore plus large, c'est-à-dire que c'est pas la Ligue toute seule, c'est les efforts du dialogue entre tous les acteurs, donc la Ligue, l'Association nationale des supporters, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Sports, qui permet d'avancer. Le problème, c'est que pour l'instant, les avancées, elles sont visibles des gens qui participent à ces discussions, comme Pierre Barthélémy ou moi, et donc on voit un certain nombre de conséquences, mais pour l'instant, les supporters les voient pas encore. Et donc là, on est un peu dans une période où les uns voient le verre à moitié plein et les autres le verre à moitié vide. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut continuer à dialoguer malgré la période un peu compliqué actuellement, pour traiter tous les sujets et progressivement continuer à avancer puisqu'on est sur une bonne dynamique. D'autres au sein de la Ligue, puisque la Ligue a des courants contraires, vont dire, ben voilà, on a un peu dialogué, ça porte pas ses fruits, donc on va arrêter. Moi, je pense que vraiment, il faut continuer
qui
à dialoguer
incarne le courant
avec la
contraire
Ligue et avec tout le monde.
Ceux qui ne bossent pas les dossiers.
Qui incarne le courant, justement, un peu anti-supporter là?
Ceux qui parlent de radicalisation, pour pas donner de nom.
C'est plutôt des courants qui sont plus ou moins ouverts au dialogue avec les supporters. Très clairement, il y a une répartition répartition aussi des rôles au sein de la Ligue, qui fait que Didier Quillot s'occupe plutôt des questions de droit télé, Nathalie Bois-de-la-Tour plutôt des questions de relations avec les supporters. Et donc, effectivement, quand Quillot s'exprime sur ces sujets-là, supporters, c'est pas des sujets qui traitent au quotidien. Mais il y a un dernier point que je voudrais faire par rapport à ce que disait Daniel Riolo qui me paraît important, c'est qu'effectivement, il y a deux sujets différents, à deux niveaux différents. Il y a le sujet des fumis qui pollue les relations entre les clubs et leurs supporters et entre les supporters et la Ligue. Et il y a ensuite une question beaucoup plus large qui est celle du rôle des supporters dans le football aujourd'hui.
Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
Non,
c'est ça,
on va en parler maintenant.
Qui me paraît essentielle, oui.
On va en parler maintenant. On va notamment parler de ces nouveaux arrivants dans nos clubs là, qui arrivent à coup de slogan marketing avec des OM Project ou des Bordeaux, je sais pas quoi. Parce que eux, vraisemblablement, il y a grosse difficulté de compréhension entre eux et les supporters. Et puis on aura Nassim au 32-16 qui passionne depuis tout à l'heure. Oui, Nassim, tu auras la parole dans quelques instants. Le handball, le point sur le score Montpellier-Nantes, Julien.
Reparti depuis 7 minutes dans cette deuxième période et c'est Nantes qui fait la course en tête. Plus simple pour les Nantais, 18-17 grâce à ce but de Nicolas Tourna.
A tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec David Belaïd ce soir, avec Willy Sagnol, avec Pierre Barthélémy et Nicolas Ourcade. Nous parlons du sujet des supporters. Pierre, je le rappelle, est avocat. Il travaille avec les groupes ultra notamment. Et Nicolas est sociologue. Avant de partir sur un thème un peu différent, donc sur l'incompréhension générale entre dirigeants de club et ultra, j'aimerais qu'on accueille Nassim au 32-16. Salut Nassim.
Ouais, bonsoir l'after.
Nassim, t'es un ancien ultra du PSG?
Ouais, oui, très longtemps. J'ai commencé saison Cigogne et j'ai fini chez les Tigres en 2010, dans mon dernière année d'abonnement.
Bon, tu entends notre débat là? Est-ce que tu es globalement
déjà
d'accord?
Déjà, juste un truc, je remets au clair un truc, parce que j'entends trop ultra, supporter, oui. Daniel, j'ai déjà entendu dire, se positionner sur ce truc. Ultra, il y en a presque plus en France, puisque je vous rappelle qu'ultra, c'est une mentalité. La première, c'est d'être indépendant du club, déplacer, faire ses des déplacements en indépendant du club, ne pas acheter de produits dérivés, etc., etc. Donc moi, en tant qu'ancien ultra...
Ça, c'est vraiment touriste des premières heures, ça, hein.
Oui, non, mais je vous le dis, ça fait partie de la mentalité. Quand on a été chercher chez les Italiens, à l'époque, quand Auteuil est arrivé en 91, le gros mouvement, c'était ça, ultra.
Alors, qui correspond encore à ça en France?
Supporters.
Bah, il n'y a plus grand monde.
Il n'y a plus personne.
Bah, oui, mais c'est pour ça que je vous dis, mais c'est vachement important de le signaler. Bon, j'ai que 38 ans, j'en ai pas 200, mais je vous dis que c'est vachement important parce qu'on dit milieu ultra, mais le milieu ultra, il doit être indépendant. Je vous rappelle qu'à Marseille, ils ont géré leur place d'abonnement pendant 30 ans.
Donc Nassim, si je te comprends bien, et effectivement, moi je me souviens de comment ça s'appelait, il y avait la fameuse charte de l'ultra, des ultras, là, c'est un papier qu'on avait parfois
en tribune. C'est comme des anthologies qu'on avait fait à Auteuil, mais il était voilà. Aussi chez Boulogne. Hein.
Ouais, mais bien sûr, ouais. Mais donc ça veut dire que si on s'en tient à cette mentalité d'origine, tout ce qu'on est en train de dire ce soir, en fait, ne sert à rien du tout. Parce que on ne doit pas rechercher le référent supporter, on ne doit pas rechercher le lien ni avec ton club ni avec les institutions. Le dialogue ne sert pas.
J'ai juste remis en contexte ultra, Daniel. J'ai juste remis le terme.
Ah
ultra.
Non, mais moi je te dis pas. C'est voilà, juste pour savoir
Nassim,
si c'est
sur la situation actuelle là et notre débat. Qu'est-ce que t'en penses?
Franchement, je pense qu'on est amnésique. Alors le thème, c'est la radicalisation des supporters. Franchement, j'ai passé presque toute ma jeunesse dans j'étais vraiment un ultra et je vais pas aller plus loin. Je pense vraiment avec du recul, de l'objectivité et de la sagesse entre guillemets que ça s'est énormément calmé. Je crois qu'on a oublié les déplacements de supporters, nous à Paris, les blessés, les morts. On est monté au camp des loges, mais j'ai des souvenirs au camp des loges. Mais j'ai coursé André Louis. Si vous vous souvenez, dans les années 2000.
Enfin, Nassim.
C'est une autre époque.
Il y avait un contexte.
Non, mais c'est une autre époque. Là, j'ai encore quelques amis dans le milieu ultra, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut régler. Maintenant, on a des groupes.
Il avait fait quoi, le pauvre André Louis, pour que tu viennes dans le courser?
Non, mais c'était à l'époque, on avait perdu au parc contre Marseille. C'était l'année où je crois, c'était l'année d'après le retour de Furet. Je crois que c'était la même année. Je m'en souviens plus trop. Mais ça, c'est pas grave.
Furet, je n'ai jamais revu.
C'est sûr qu'il y a des soucis. vous parliez des pyros tout à l'heure. Je vous rappelle qu'à Boulogne, ils n'ont pas la culture ultra, enfin ultra au sens italien, tifo. Il y avait très rarement de la pyro à Boulogne. Boulogne, c'était des gars qui chantaient jusqu'à la 94e minute. C'était des gars qui faisaient des déplacements en train, en vélo, en vélib, en ce que vous voulez. C'était ça la culture ultra. Maintenant, c'est du
en vélib.
Non, mais je caricature, oui. Gilbert. Ce que je veux dire, oui. C'est que maintenant, il y a des groupes de supporters bien structurés et avec la numérisation, la mondialisation et tout ce qu'on peut mettre sur Internet et mis dans les médias, forcément les choses sont plus visibles. Donc les principaux protagonistes du football ont changé aussi. Le football a changé. Le prix des places.
Ce que je retiens, c'est le plus important, c'est c'était pire avant.
Alors attends.
Nous dit Nassim.
Attends. Pour moi, il n'y a pas pire ou moins bien ou machin. Il faut juste essayer de comprendre ce que dit Nassim, qui est intéressant. Moi, je me souviens de cette époque. Je l'ai vu cette époque. Quand on parle justement d'aujourd'hui et de ce que disait Nicolas tout à l'heure, de l'éventualité d'un syndicalisme chez les supporters ou de la contestation du pouvoir, des décisions, de la frustration que peut engendrer la promesse faite par des dirigeants, tout ça c'est nouveau et ça appartient au nouveau monde des supporters. Avant, s'il y avait d'abord le supporter, comme il le dit, l'ultra en tout cas, était indépendant, et s'il avait un problème avec les joueurs, il allait, on va dire, dans un contact direct. Le joueur faisait un match pourri où il y avait une mauvaise série, on essayait d'aller lui foutre la pression au centre d'entraînement. Là, aujourd'hui, c'est plus les dirigeants travaillent mal, ils sont en train de couler notre club, qui sont ces
Américains. Marcelo, il y a contact quasi direct.
À Paris, on a eu ça, quand les copes appelaient retour de Louis, enfin les virages appelaient retour de Louis, quand on demandait la démission de Jean-Pierre Larue, par exemple. Enfin, il y a à Paris, il y a quand même longtemps eu cette culture de contestation de la gouvernance.
Ah, attendez, parce que Willy va nous quitter.
C'est même finalement les ultras qui ont obtenu le départ de Borrelli pour que Canal arrive, le fameux Daniel. Soir du PSG Monaco, une équipe à Paris, le bordel.
Je remercie Nassim, c'était intéressant, mais Willy va nous quitter et on va aborder une thématique. Je sais que tu veux en parler. C'est donc cette différence qui existe aujourd'hui de discours entre les dirigeants et les supporters. Et ça, c'est un truc que tu as du mal à comprendre, certains nouveaux arrivants, toi, dans le monde du foot.
Bah, je comprends. Français. J'ai du mal à comprendre où les nouveaux arrivants, où les supporters. Pour reprendre dire un lieu que je connais très bien qui est Bordeaux, quand il y a l'Américain avec son gros chapeau et ses hot dogs qui arrive et qui dit dès le départ je vise le podium, on va mettre 80 millions sur 2 ans et on va y arriver. Si tu réfléchis un temps soit peu, tu te dis attends, tu as 60 millions d'euros de budget. Si tu veux mettre 80 millions sur 2 ans, tu vas passer je sais pas 80-90 millions de budget. Mais t'es cinquième ou sixième. Donc déjà, tu ne peux pas être sur le podium.
Donc, soit ils savent pas.
Non, mais si tu veux t'acheter, entre guillemets, un podium, pour un club comme Bordeaux, avoir la garantie de podium, c'est 250-300 millions qu'il faut mettre. Parce qu'il faut acheter 7 ou 8 joueurs. Et que, autant celui qui fait cette promesse-là, je me dis, de toute façon, lui, c'est un Américain, il ne connaît rien au foot. Il fait ça parce qu'il a l'impression il veut faire bander, comme on dit, il veut faire bander tout le monde. Et puis après, je me place côté supporter en me disant, mais je peux pas y croire. Tu me prends pour une banane. Donc que des supporters y croient. Non, mais que des supporters y croient. Je trouve que c'est faire preuve de bêtise que de croire à ça. C'est comme si demain Macron te dit bon bah finalement je vais mettre la retraite à 55 ans. Par contre entre tout le monde 55 ans et entre temps bon vous arrêtez toutes les grèves et que tout le monde dise oh super on va arrêter les grèves non tu sais très bien qu'il va pas le faire.
Oui mais les gens ils vont le croire.
Non mais à un moment donné
tu vends du rêve à quelqu'un. Ils ont envie d'y croire.
Non,
t'as passé 5, 6, 7 ans en balle.
L'envie de croire n'excuse pas. Enfin, s'excuse pas une forme de bêtise. C'est comme le Champions Project à Marseille. Quand Macron dit je veux mettre 200 millions dans le club, tu sais déjà qu'il te faut 1 milliard si tu veux passer le PSG. Il te faut plus d'1 milliard pour dépasser le PSG. Donc comment tu peux penser en tant que connaisseur du football? Parce que moi, je pars du principe que les supporters sont des vrais connaisseurs. Ouais, ils connaissent le jeu, ils connaissent. On va dire, ils peuvent avoir de vraies réflexions tactiques sur l'évolution d'un club et de se laisser bananer par des mecs qui balancent des phrases en arrivant. Je trouve voilà qu'ils font montre de bêtises par rapport à ça et les nouveaux arrivants font montre de
d'incompétence. Très bien introduit notre sujet qui arrive juste après les infos. On se retrouve tout de suite dans l'after bien sûr pour continuer ce débat avec toute l'équipe. On est là jusqu'à minuit bien sûr donc et puis on va maintenant aussi parler dans la deuxième heure d'éventuelles solutions. De dialogue à suivre, bien sûr, avec vous au 32-16.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything. From city traffic to ocean plastic. New schools to new energy. Flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.